Nous sommes vendredi et c'est l'heure du journal de Camille Manière. Midi et demi sur France Culture. Bonjour Camille.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. La mort d'un fou chantant, Jacques Higelin, est décédé ce matin après de longs mois de maladie. Et déjà, les hommages se multiplient dans le monde de la chanson française et bien au-delà. Nous lui consacrerons la première partie de ce journal. Journal qui nous emmènera également à Gaza, autour de cette frontière avec Israël, où se massent à nouveau, aujourd'hui, des milliers de Palestiniens en faveur de la levée du blocus et pour le droit au retour des réfugiés. 20 morts, on le rappelle, la semaine dernière, et des heurts déjà avec les soldats israéliens. L'actualité française, ce sont ces lycéens, enseignants, parents d'élèves qui font front pour sortir leur lycée de Seine-Saint-Denis de la violence quotidienne. Reportage à suivre au lycée Utrio de Stain. Une réforme gouvernementale de plus et pas des moindres qui précise ses contours. C'est le projet de loi sur l'assurance chômage, la formation professionnelle et l'apprentissage qui était dévoilé ce matin par Muriel Pénicaud. La France bousculée par le rythme des réformes, les tensions sociales qui montent et qui éclaboussent. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, qui se tenait en retrait jusque-là sur sa montagne jupitérienne, est rattrapé par la contestation ambiante. On l'a vu hier. Analyse à suivre de Stéphane Robert. L'invité de ce journal, c'est le député de la majorité Gabriel Attal, porte-parole de La République En Marche, pour évoquer ce contexte politique et social tendu et pour tenter d'en savoir plus aussi sur l'avenir de l'audiovisuel public français, sur lequel le député Attal est chargé justement de rendre très bientôt des propositions à l'Élysée. La deuxième partie de la grande table, Olivia.
Nous demandons peut-être à votre invité, Gabriel Attal, s'il a relu toute l'œuvre de Saint-Simon avant de s'engager, parce que c'est le sujet de la deuxième partie de la grande table aujourd'hui. Le macronisme est-il un saint-simonisme? Le nom de ce philosophe du 19e revient souvent en ce moment comme source d'inspiration de la politique du président. Quelle filiation avec ce penseur de la modernité? On en parlera avec nos invités, les philosophes Pierre Musso et Juliette Grange, qui seront donc avec nous après votre journal, Camille.
Je tire ma révérence, une dernière taffe de provoque. C'est un miracle de vivre, c'est miraculeux déjà d'être arrivé au monde, d'avoir tenu aussi longtemps, et puis le temps paraît très court, tout d'un coup on se dit ah déjà, oh merde, bon, mais d'un autre côté, chaque jour, on fait plus attention à chaque jour qui vient.
Je ne peux plus dire je t'aime. Me demande pas pourquoi.
L'amour de la vie et la mort, ils étaient en 2016 au cœur du dernier album enregistré par Jacques Higelin, le chanteur hirsute et inclassable est donc décédé ce matin. C'est sa famille qui l'a annoncé et c'est toute celle de la chanson française qui perd donc aujourd'hui l'un de ses représentants les plus attachants. Bonjour Tara Schlegel.
Bonjour.
Jacques Higelin, c'était une carrière entamée dans la marge la plus créatrice et qu'il a vu signer certaines chansons qui restent comme de grands succès populaires.
Saltimbanque, foutraque, baladin, funambule, tous ces adjectifs collent à la peau de l'artiste Higelin sans concession. Pour lequel on le sentait lors de ses concerts interminables. La chanson, la musique, le rock, le jazz étaient consubstantiels à son équilibre même. Enfant de cheminot, né en 1940, il lui est toujours resté l'angoisse de la guerre, la terreur même des bombardements. Il en a souvent parlé. Son père chantait, sa mère aussi. Il adorait, lui, Maurice Chevalier, plus encore traîné, auquel il rendra hommage dans un album. Mais c'est vraiment le jazz qui fut une révélation. Tout jeune, adolescent, Gillespie, Fats Waller, Beckett, Coltrane, il les écoutait tous à la radio. Il était fasciné aussi par des Français comme Gainsbourg, de 12 ans son aîné, au phrasé moderne comme le disait Jacques Higelin. Alors c'est Canetti qui lui fit enregistrer son premier album, mais c'est le rock ensuite qui l'a vraiment happé. Avec cette folle décennie dans les années 70 où éclate son talent dans des albums comme BBH 75 ou Champagne pour tous, on gardera aussi de Higelin l'image d'un artiste engagé, osant des coups de gueule, s'élevant pour le DAL, le droit au logement, chantant pour Ségolène Royal en 2007 ou venu encore soutenir Anne Hidalgo. Mais Higelin, c'était d'abord, je l'ai quand même dit, la folie des concerts. En 1985, il s'était installé un mois à Bercy avec la complicité de Patrice Chéreau pour un show incroyable dans lequel apparaissait d'ailleurs une foultitude d'amis artistes. Et pour ses 75 ans, il était à la Philharmonie de Paris tout un week-end à fêter son anniversaire avec et pour le public en compagnie de Catherine Ringer, Sandrine Bonner, Camélia Jordana, Arthur Hache bien sûr aussi et sa fille Isia. Enfin, dans Télérama, il disait à Antoine Perrault il y a quelques années, l'idée de la mort est une formidable conscience de la vie. Tu te rends compte, si nous avions l'éternité devant nous, ça ne va pas. Il faut varier les plaisirs. Je crois que la mort est le berceau de la vie.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse.
champagne donc pour Jacques Higelin, décédé ce matin à l'âge de 77 ans sur France Culture. On va continuer à lui rendre hommage, bien sûr, aujourd'hui, Olivia.
Oui, à 19h, une dispute spéciale animée, bien sûr, par Arnaud Laporte, consacrée au chanteur Jacques Higelin, de 19h à 20h, ce soir sur France Culture.
Et c'est à retrouver aussi sur franceculture.fr. La consigne n'a pas changé pour les tireurs d'élite israéliens postés à la frontière avec Gaza. Ordre de tirer sur les manifestants qui s'approcheront trop près de la barrière électronique entre Israël et l'enclave palestinienne. La crainte d'un nouveau bain de sang est donc réelle ce vendredi pour cette deuxième mobilisation dans la bande de Gaza en faveur du droit au retour des réfugiés palestiniens et pour la fin du blocus qui étrangle leur territoire. La semaine dernière, on le rappelle, les tirs israéliens avaient coûté la vie à 20 personnes et fait des centaines de blessés. Alors nous rejoignons tout de suite à Gaza notre envoyé spécial. Bonjour Étienne Monin.
Oui, bonjour.
Étienne, le très lourd bilan des manifestations de vendredi dernier n'a pas dissuadé les Gazaouis de venir défier l'armée d'Israël ?
Non, mais pour l'instant, on peut pas non plus parler de rassemblement massif ici à l'est de Gaza. La prière s'est terminée. C'est donc à partir de maintenant qu'on va pouvoir commencer à voir la densité des participants à ce rassemblement. Mais jusqu'à présent, c'était assez limité et surtout cantonné à proximité de la frontière avec un nombre de jeunes d'environ plusieurs centaines qui affrontaient les Israéliens. Mais à distance, c'est un peu pour l'instant une situation de position. Ces Palestiniens font des avancées vers la frontière, mais ils reviennent. Il y a eu 4 blessés pour l'heure, d'après le ministère de la Santé, dont un par balle. On ne peut pas parler de débordement pour l'instant. On peut juste parler de tension. On sent aussi 2 ambiances ici, celle des tentes à un peu plus d'un kilomètre de la frontière, avec les marchands ambulants, une ambiance de kermesse, et puis celle de cette frontière délimitée par un petit talus de terre. Il ouvre sur un grand champ. Ce champ est bosselé. Il avance en direction de la barrière israélienne. Il fait environ 300 à 400 mètres. Et dans cette partie qu'on peut qualifier de zone rouge, il y a des centaines de Palestiniens en première ligne. Ce sont d'assez jeunes Gazaouis, la jeunesse défavorisés. Ils sont équipés d'armes sans véritable moyen, c'est-à-dire des pneus, des bouts de fer, des miroirs. C'est une armée de bouts de ficelle, avec un discours un peu typé sur cette marche qui reste pour eux populaire, sur ce droit au retour. Mais on sent derrière que les conditions de vie à Gaza, le désœuvrement, le manque d'horizon alimentent aussi aujourd'hui cette manifestation et donc cette avancée, on va dire, vers la frontière.
Et puis Étienne, il y a des questions. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair sur la nature de cette mobilisation politique et la place que joue le Hamas ?
Bien, pour l'instant, d'abord, c'est un enjeu important parce que le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, dit « Je ne suis pas face à une manifestation, nous sommes face à une organisation terroriste ». Donc, en gros, il y a une coloration Hamas sur tout ce qui concerne cette manifestation. Pour autant, dans ce qu'on peut recueillir ici comme témoignage, on se rend compte qu'on est plus dans une convergence d'intérêts, c'est-à-dire à la fois pour le Hamas, un intérêt politique. Le mouvement était dans une impasse politique et militaire il y a encore quelques semaines. Il est aujourd'hui impliqué dans ce mouvement qui sert de levier, qui a mis l'armée israélienne en porte-à-faux. Et puis, il y a la population qui vit dans des conditions difficilement supportables aujourd'hui. C'est une forme de mobilisation également. Et cette jeunesse qui n'a pas d'action, pas d'horizon. On est donc, pour l'instant, dans ce qui se dessine de ce mouvement, sur une convergence d'intérêts. Mais c'est sûr que le Hamas a sa part. Il a participé à l'organisation. Il promet de l'argent pour les blessés, pour les familles des victimes. Et tout à l'heure, l'un des membres fondateurs du Hamas est venu prendre un bain de foule ici à proximité de la frontière.
Étienne Monin, merci à vous en direct de Gaza. On reviendra vers vous bien sûr pour suivre cette journée de mobilisation à haut risque dans nos prochaines éditions. Au Brésil, dernières heures de liberté pour Lula, l'ex-président de gauche, a jusqu'à 17h heure locale pour se rendre à la police qui doit le mettre en prison. Application de sa condamnation à 12 ans de réclusion prononcée dans une des ramifications du scandale de corruption Petrobras. Malgré cette condamnation, Lula était jusqu'à aujourd'hui le favori des sondages pour la prochaine élection présidentielle au Brésil. Et puis elle est condamnée à passer 24 ans derrière les barreaux. L'ex-présidente, cette fois de Corée du Sud, Park Geun-hye, a été reconnue coupable aujourd'hui de coercition, d'abus de pouvoir et de corruption. Entre autres, elle faisait face à 18 chefs d'accusation en tout.
midi 40 exactement sur France Culture, la suite du journal de Camille Magnard.
Et l'actualité en France qui nous emmène au lycée de Seine-Saint-Denis, lycée Maurice Utriot de Stain, un établissement paralysé par des violences à répétition, des agressions régulières et particulièrement choquantes au sein même de ce lycée. Lycée bloqué depuis ce matin dans un même front par des lycéens, des enseignants et des parents d'élèves, tous d'accord pour dire que les violences qui débordent des quartiers alentours vont trop loin. On va faire le point sur cette mobilisation tout de suite avec vous, Charlotte Lalanne. Vous êtes justement devant le lycée Utriot de Stain.
Oui, il y a ici une atmosphère inhabituelle. Quand il y a un lycée à l'arrêt, ce matin, les élèves ont tout simplement décidé de faire grève, une sorte de blocus interne suivi par 80% des lycéens, d'après leurs professeurs. Vers 9h, ils ont frappé aux portes de toutes les classes en demandant à ceux qui le voulaient de les suivre. Ils se sont réunis dans l'établissement au cri de non à la violence. Une élève de première qui a assisté il y a quelques semaines à l'agression de l'un de ses camarades au marteau me disait « On se lève le matin pour aller étudier, mais on ne sait pas si on va arriver vivant. » Alors pendant leur mobilisation, une vingtaine de parents d'élèves occupaient également une partie du lycée. Et au même moment, la direction de l'établissement recevait l'inspection d'académie. Académique et le maire de Stain, Azedine Taïbi, qui réclame encore une fois plus de moyens, des moyens d'urgence, plus de policiers devant l'établissement, plus de surveillants à l'intérieur. Aujourd'hui, il y en a 11 pour 1300 élèves, 11 surveillants, tous en arrêt maladie. Alors cet après-midi se tient une première réunion entre le commissaire de Stain, le maire de la ville, le recteur d'académie et les parents d'élèves. Alors qu'en attendent les élèves, les profs? Pas grand-chose, m'ont-ils dit. Cela fait des années qu'on nous fait des promesses, mais nous, on se sent oubliés. Les enseignants demandent toujours la fermeture de l'établissement jusqu'à nouvel ordre. Quant aux élèves mobilisés, ils se disent prêts à poursuivre leur grève jusqu'à ce qu'ils soient enfin entendus.
Charlotte Lalanne, merci à vous. Vous étiez donc en direct de Stain, où la paralysie de ce lycée Utriot se poursuit donc aujourd'hui. Pour la liberté de choisir son avenir professionnel, comment être contre un tel intitulé? C'est en tout cas celui qui a été choisi par le gouvernement pour sa deuxième grande réforme du droit social en France. Il y a d'abord eu à l'automne les ordonnances Pénicaud modifiant le code du travail. Voici désormais présenté au grand jour le deuxième volet qui concerne tout à la fois l'assurance chômage, la formation professionnelle et puis l'apprentissage. Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour Camille.
Vous revenez du ministère du Travail où était présenté ce projet de loi qui passera en Conseil des ministres le 27 avril. Alors le gouvernement présente depuis le début cette réforme comme un volet plus protecteur, plus favorable aux travailleurs après les concessions qui ont été faites sur le code du travail. Reste à savoir si ces protections, cette liberté invoquée sont bien au rendez-vous.
Alors ce matin, plutôt que les détails, c'est l'esprit de la loi qu'a voulu présenter la ministre du Travail, puisque le texte en lui-même est encore sujet à modification. Et l'esprit de cette loi, selon la ministre du Travail, ça n'est ni plus ni moins que la refonte de notre système social de l'emploi. Une transformation systémique, selon elle, qui doit, entre autres, permettre à 1 300 000 jeunes sans diplôme, sans emploi, sans formation, de pouvoir choisir et concrétiser leur avenir professionnel et qui doit permettre aussi aux salariés actuels de pouvoir conserver leur emploi dans un monde où le travail se transforme considérablement face à la transition numérique et écologique. Un enjeu capital donc, et pour cela des moyens qui peuvent apparaître assez techniques, mais la ministre veut y voir plutôt des droits plus concrets qui parlent plus aux actifs, ces droits, et notamment ceux attachés au CPF, le compte personnel de formation, doivent être plus facilement mobilisables, transformés en euros. Ce CPF permettra par exemple à chacun de choisir lui-même sa formation sans intermédiaire, mais tout de même accompagné d'un conseil en évolution professionnelle gratuit, mobilisable via des appels d'offres. Et ce, y compris pour les salariés des TPE et des PME qui n'en bénéficiaient que très peu jusqu'alors. L'esprit, c'est bien de supprimer intermédiaires et contraintes. C'est aussi vrai pour les autres volets de la loi, notamment l'apprentissage. Désormais, par exemple, les entreprises pourront créer leur propre CFA sans barrières administratives. Le texte aborde aussi l'assurance chômage, l'emploi des personnes handicapées, l'égalité salariale hommes-femmes ou encore le travail détaché et la mobilité des fonctionnaires vers le privé. Au total, 96 pages, 65 articles.
Anne-Laure Chouin, social, là encore 6 heures de face-à-face pour rien, à en croire les syndicats de cheminots qui étaient reçus hier soir au ministère des Transports. Le dialogue resterait selon eux dans l'impasse alors que la grève doit reprendre, on le sait, dimanche et lundi. D'une même voix, donc, à la sortie du ministère hier soir, les représentants syndicaux disaient leur sentiment qu'on les fait venir pour rien, que le gouvernement ne veut pas dialoguer, mais veut les pousser à quitter d'eux-mêmes la table des négociations. Ce matin, sur France Info, la ministre Elisabeth Borne leur répondait en tentant de présenter la responsabilité de l'échec pour l'instant de ces négociations sur la seule CGT et ses positions de principe, je la cite. Une réunion est à nouveau prévue cet après-midi au ministère des Transports avec les syndicats de cheminots pour discuter plus précisément des droits sociaux et du statut des agents de la SNCF. Gabriel Attal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc l'invité de ce journal député La République En Marche, dont vous êtes le porte-parole. En début de semaine, vous avez parlé d'une gréviculture française dont il faudrait sortir. Ça vous a beaucoup été reproché. Alors, vous tenez le même discours aujourd'hui, alors que la première partie de la grève à la SNCF a été plutôt bien suivie et que les négociations, on le voit, semblent dans l'impasse.
Ce que j'ai dit lundi, en réponse à une question qui m'était posée pour savoir s'il fallait limiter le droit de grève en France, c'est que non, il ne fallait évidemment pas limiter le droit de grève, que c'est un droit constitutionnel.
C'est le terme de gréviculture
qu'il faut le respecter. Qui vous a été reproché. Ce que j'ai dit en revanche, c'est que je regrettais qu'un certain nombre de syndicats, certains syndicats, soient dans une culture de l'affrontement qui les pousse à annoncer des mobilisations, à annoncer des contestations, avant même qu'un projet soit présenté. Voilà ce que j'ai dit. Je maintiens que je regrette qu'un certain nombre de syndicats ne souhaitent pas entrer dans un dialogue. Vous entendez aujourd'hui certains mots d'ordre qui sont des rejets de pur et simple de la réforme, ce qui nous apparaît ni souhaitable pour les Français, ni possible au regard des enjeux auxquels notre système ferroviaire fait face. Donc voilà, il faut continuer à expliquer, il faut continuer à dialoguer. Le gouvernement sera toujours autour de la table, il continue à l'être, les parlementaires aussi.
Et on la pédagogie donc se poursuit,
oui,
on va continuer.
Il y a des garanties importantes qui ont été apportées quand même.
On va continuer, Gabriel Attal, à évoquer tous ces sujets avec cette question à présent pour poursuivre justement. Et Emmanuel Macron, dans tout ça, le chef de l'État prend soin depuis le début de cette séquence sociale agitée de se préserver, de laisser ses ministres en première ligne. Il a toutefois été rattrapé hier par ses craintes qui s'expriment un peu partout dans la société française. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour Camille.
Ça s'est passé hier en deux temps. D'abord Emmanuel Macron face à une infirmière à Rouen qui l'interpellait sur l'état de l'hôpital public, puis face à des étudiants, des enseignants qui l'ont chahuté son déplacement à Saint-Denis.
Oui, il y a eu cet échange dans un hôpital à Rouen avec des infirmières où on a un peu l'impression d'un dialogue de sourds.
Ce que je veux vous dire, c'est que ce serait faux de dire qu'on peut dépenser l'argent comme ça sans regarder. Ma responsabilité, c'est aussi de dire qu'il faut le dépenser intelligemment et efficacement. Et donc, oui pour le faire, oui pour investir dans la santé, c'est essentiel, mais oui pour le faire bien.
Des postes parce qu'on manque de personnel.
Il y a des catégories de postes où il faut le faire, mais qui ont des conditions d'accueil. Il y a des réorganisations à faire, parce que vous avez raison que c'est très dur de parler des urgences.
Et puis il y a eu ces lycéennes à Saint-Denis qui ont interpellé Emmanuel Macron pour lui dire leurs craintes et leurs difficultés.
Des briques qui sont jetées dans les classes, il y a des élèves qui se sont fait agresser au chalumeau. Certains élèves ont peur de venir au lycée, on aimerait avoir le bac dans de bonnes conditions.
On a des violences tous les jours et la police ne vient pas. Et là vous voyez le déploiement de CRS militaires.
Il se passe aujourd'hui quelque chose d'assez étrange dans ces échanges qu'Emmanuel Macron peut avoir avec les Français. Alors que jusqu'ici, c'est lui, le président, qui les sollicitait et qui, dans la discussion, se montrait extrêmement pugnace, très combatif, à l'image de ce qui s'était passé, souvenez-vous, avec les salariés de Whirlpool à Amiens lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Aujourd'hui, il semble être interpellé un peu par surprise et être sur la défensive. D'ailleurs, plus globalement, face à l'ensemble des contestations qui s'expriment depuis plusieurs jours, Emmanuel Macron reste en retrait et laisse son Premier ministre monter au front et jouer les pompiers de service. Et il semble qu'il y a là quelque chose qui n'était pas prévu, qui n'était pas dans le scénario, au point qu'Édouard Philippe a annulé le voyage qu'il devait effectuer en cette fin de semaine au Mali, signe qu'il y a apparemment un peu de fébrilité du côté de l'exécutif. Et ce qui ne va pas, ce qui n'était pas prévu, c'est sans doute moins la mobilisation des cheminots, des syndicats et des formations politiques d'extrême-gauche dans les universités que le fait que paraissent s'exprimer au sein de la population, on vient de l'entendre, des craintes et des angoisses, craintes face au terrorisme, craintes face à l'emploi, face à la situation économique et plus généralement face à l'avenir. Et il semble que monte un sentiment parallèlement que les réformes qui sont mises en œuvre ne sont pas de nature à répondre à ces oppressantes interrogations.
Stéphane Robert, interrogation que l'on va renvoyer vers notre invité, Gabriel Attal. Vous avez l'air de ne pas être oui, d'accord avec ce constat-là.
Je suis évidemment d'accord avec le constat. Il y a des angoisses dans ce pays sur la sécurité, sur l'emploi et sur beaucoup de sujets.
Elles n'est pas d'aujourd'hui. Et sur la capacité du gouvernement à y répondre.
Et c'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron a été élu président de la République et que les Français lui ont donné une majorité à l'Assemblée. Vous savez, il y a deux ans jour pour jour, en fait, aujourd'hui, la date anniversaire, Emmanuel Macron lançait En Marche à Amiens. Et dans les constats qu'il poussait à lancer un mouvement politique, il y avait justement la nécessité de répondre à ces inquiétudes et de proposer un certain nombre de transformations pour le pays, justement pour y répondre, en sortant des logiques d'appareil, des logiques politiciennes et d'aller de l'avant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Évidemment qu'il y a encore des inquiétudes. Moi, je les comprends, je les entends, notamment à l'hôpital. C'est compliqué.
Il y a encore des inquiétudes et il y en a de plus en plus qui s'agrègent.
Je ne sais pas si on a de plus en plus qui s'agrègent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus d'actions et de réformes de notre part qui s'agrègent parce qu'il faut y aller. Il faut réformer ce pays et il faut transformer ce pays. C'est ce qu'on fait. Moi, je comprends parfaitement que des infirmières profitent du fait qu'Emmanuel Macron, le président de la République, soit présent pour leur dire combien il est difficile de travailler à l'hôpital public. C'est une réalité. On a un système avec la T2A qui fait que on pousse les personnels hospitaliers à accumuler les actes dans un contexte qui est compliqué. Tout ça, on est en train d'y répondre. Le ministre de la Santé a mis en place un groupe de travail opérationnel qui va rendre très vite des propositions sur le sujet. On avance, on le fait en faisant de la pédagogie. Évidemment, quand on avance, quand on lance des chantiers comme ça, ça révèle aussi des volontés, des interpellations de la part de ceux qui en sont directement concernés.
Est-ce que les contestations qui se font jour aujourd'hui sont un peu plus importantes que ce que vous imaginiez ? Quelles sont ?
Moi, enfin, je sais pas si on peut parler de contestation massive comme vous l'avez fait. Il y a des inquiétudes, il y a des revendications, il y a des doutes.
Massive, hein.
Il y a des doutes. Et ça, évidemment, on le sait qu'il y a des doutes dans le pays, on sait qu'il y a des inquiétudes. Et notre ambition, notre enjeu, c'est quand même d'y répondre. Et c'est ce qu'on fait. Moi, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour expliquer ce qu'on fait sur la SNCF, sur les universités. J'étais rapporteur de la loi sur l'université. Voilà, on répond à des situations, à des inquiétudes qui sont portées.
Vous avez vu le sondage qui est publié par Le Figaro ce matin, son sondage Odoxa sur le terrorisme, qui dit que 41% des Français seulement font confiance à l'exécutif pour répondre à la menace terroriste. Est-ce qu'il n'y a pas des craintes face à l'avenir là et est-ce qu'il n'y a pas une manière qu'il faudrait prendre pour essayer de rassurer un peu plus qu'on ne le fait aujourd'hui ?
On le fait, hein, y a une crainte sur le terrorisme évidente et il y a des Français qui ont vu des législations, je parle du dernier quinquennat, se superposer, un état d'urgence quasi permanent qui avait été installé et pourtant des attentats qui ont continué à se produire sur le territoire parce que la réalité, et ça les Français le savent, c'est que le risque zéro n'existe pas et que malheureusement quand un individu qui se radicalise seul décide de passer à l'acte, c'est très difficile de l'en empêcher. Et nous, ce qu'on fait, et on le dit régulièrement, c'est qu'on met en place tous les moyens, tous les outils nécessaires pour permettre de limiter ce risque le plus proche de zéro possible.
Est-ce qu'il faut que le président prenne la parole, là ?
Moi, j'interpelle pas le président pour lui demander de parler. Le président, il va au contact. On l'a vu parler hier, puisqu'il était au contact des Français, il se cache pas. Il va au contact de ceux, y compris qui sont inquiets, qui ont des doutes, pour dialoguer avec eux, pour leur répondre. Il le fait tous les jours, il se déplace beaucoup sur le territoire.
Alors vous n'interpellez pas le président, vous êtes chargé dans un autre registre de lui remettre des propositions à lui et au gouvernement sur la réforme en vue de l'audiovisuel public. On parlait de crainte et d'inquiétude. Il y en a aussi dans ce domaine-là, de la part des personnes qui travaillent à Radio France, à France Télévisions, dans les différentes antennes et les différentes sociétés de l'audiovisuel public, chez nos auditeurs, nos téléspectateurs également. Vous dirigez toujours un groupe de travail parlementaire de la majorité qui doit rendre des propositions, qui devait le faire en mars. On est début avril. Où est-ce qu'on en est ? Est-ce que vous avez des précisions à nous apporter ?
Oui, effectivement, on a un groupe de travail avec plusieurs parlementaires, notamment mes collègues Aurore Berger, Frédéric Dumas, qui travaillent aussi sur ces questions-là. On remettra au gouvernement des propositions dans quelques semaines. Faut du temps pour travailler, parce que vous savez, nous, ce qu'on souhaite, c'est travailler en nous inspirant de ce qui se fait sur le terrain, en allant au contact des personnels qui travaillent dans l'audiovisuel public. On était dans le Limousin à Limoges il y a quelques jours. On a rencontré les personnels de France 3, de France Bleu, pour voir comment est-ce qu'on pouvait travailler mieux ensemble, comment est-ce qu'on pouvait construire un vrai média de proximité, un média global de proximité.
Donc faire travailler ensemble, par exemple, la télévision, la radio, sur certaines missions. Qu'est-ce que ça peut apporter, par exemple, France 3, France Bleu, vous l'avez dit vous-même, en quoi ça apporte quelque chose de plus performant ?
Moi, je pense que les Français sont en attente d'un vrai média de proximité. Et je pense qu'aujourd'hui, France Bleu et France 3 apportent chacun, avec leurs spécificités, des choses. Moi, je pense qu'on peut accroître l'efficacité, la force de frappe, entre guillemets, la couverture, en les faisant travailler ensemble avec plus de synergie. Parce que chacun avec ses compétences, chacun avec son maillage territorial, France Bleu a un maillage très important du territoire, peuvent apporter à l'autre. Alors, il peut y avoir des émissions communes, il peut y avoir des matinales communes. Je pense qu'il faut aller vers davantage de...
C'est une logique qui peut se pousser plus loin aussi entre des antennes nationales ou même les structures
ça a été
de
fait au niveau
France Télévisions, Radio France.
Ça a été fait au niveau national avec la chaîne France Info.
Qui est un succès.
Qui trouve sa place petit à petit et qui montre en tout cas que...
C'est un modèle.
En tout cas, elle montre que des synergies sont possibles entre des personnes qui viennent d'entités différentes. Alors évidemment, il faut s'en inspirer, il faut voir ce qui fonctionne pour aller plus loin. Mais...
Vous êtes favorable à une présidente commune et une entité commune Radio France, France Télévisions particulièrement ?
Alors, moi et mes collègues, je crois que c'est exactement la même chose. On ne se pose pas les questions de gouvernance et de personnes en premier lieu. D'abord, on se demande quels sont nos objectifs. On a des objectifs. On veut que l'audiovisuel public arrive à être plus fort dans les territoires. On veut que l'audiovisuel public arrive à toucher davantage et mieux les jeunes, ce qui est un vrai enjeu. Et pour ça, si une présidence commune permet d'atteindre cet objectif, de créer davantage de synergies, de mobiliser davantage le système, c'est évidemment souhaitable. Mais ça n'est pas un objectif a priori, c'est ça que je veux vous dire.
En attendant, c'est la nomination du président ou de la présidente de Radio France qui est attendue dans les prochaines semaines. Vous avez dit dans le début de semaine sur France Inter, petit lapsus, on n'a pas encore décidé. Le CSA a encore un rôle là-dedans. L'illusion a du mal à tenir, même dans votre discours.
C'est évidemment le CSA qui est en charge, qui est en indépendance de désigner le futur président ou la future présidente.
Qui sera le président de Radio France ou qui sera le président d'une holding
Le CSA est en train de désigner le futur président ou la future présidente de Radio France. Le « on » était évidemment impersonnel et générique. Et je crois que ça a été compris par beaucoup d'auditeurs.
Gabriel Attal, merci beaucoup d'avoir été donc l'invité de ce journal. Je le rappelle, député La République En Marche et porte-parole de cette formation. Une information également, avant de terminer, c'est la mort de Véronique Colucci, administratrice des Restos du Cœur et bien sûr ex-épouse de Coluche, qui est donc décédée. On vient de l'apprendre il y a quelques minutes. La météo, ce sont plutôt des bonnes nouvelles de ce côté-là. Soleil et douceur sur l'Hexagone cet après-midi encore. Seule la pointe bretonne, la région toulousaine, auront droit à des averses avec des températures qui vont s'échelonner entre 16 et 21 degrés sur la moitié nord, jusqu'à 25 degrés sur le sud. Ça va durer encore demain samedi. Merci à Yacine Bouzard qui a réalisé cette édition à 18h. Vous retrouvez Benoît Bouscarel pour l'information.